8. Tous trois déjeunaient dans la salle à manger qui se trouvait par le fait littéralement bondée.
Tout ceci est délicieux, dit Pellerat avec une satisfaction considérable.
Cela fait-il partie de notre approvisionnement initial de Terminus?
Non, pas du tout, dit Trévise.
On l'a épuisé depuis belle lurette.
Non, cela fait partie des vivres que nous avons achetés sur Seychelles avant de prendre le cap de Gaïa.
Inhabituel, n'est-ce pas?
Ce sont diverses variétés de fruits de mer, mais en plutôt croquant.
Quant à ce produit, j'avais l'impression que c'était du chou lorsque je l'ai acheté, mais ça n'en a pas du tout le goût.
Joie écoutait, mais ne dit rien. Elle chipotait dans son assiette.
Pellerat lui dit avec douceur.
Il faut manger, chérie.
Je sais, Pelle.
Et je mange.
Trévise intervint, cachant mal un rien d'impatience.
Nous avons de la nourriture gaïenne, Joie.
Je sais, dit celle-ci, mais j'aime mieux la conserver.
Nous ne savons pas combien de temps nous serons dans l'espace, et puis il faudra bien que je m'habitue à manger de la nourriture d'Isola.
Est-ce donc si mauvais? Ou bien Gaïa ne doit-elle que manger Gaïa?
Joie soupira.
À vrai dire, nous avons un dicton. Quand Gaïa mange Gaïa, rien n'est perdu ni gagné.
Ce n'est rien de plus qu'un transfert de conscience du bas en haut de l'échelle. Quoi que je mange sur Gaïa, c'est Gaïa. Et quand la plus grande partie en est métabolisée et devient moi-même, c'est encore et toujours Gaïa. En fait, par l'acte même de manger, une partie de ce que je mange a une chance de participer à une intensité de conscience plus élevée, tandis que, bien entendu, d'autres portions sont transformées en déchets sous l'une ou l'autre forme et par conséquent s'enfoncent au bas de l'échelle de la conscience.
Elle prit une grosse bouchée, la mâcha vigoureusement durant quelques secondes, déglutit, puis reprit.
Tout cela représente une vaste circulation. Les plantes croissent et sont mangées par des animaux. Les animaux mangent et sont mangés. Tout organisme qui meurt est incorporé dans les cellules des moisissures, des bactéries, et ainsi de suite. Encore et toujours Gaïa. Dans cette vaste circulation de la conscience, même la matière non organique a sa place. Et tout ce qui circule a périodiquement sa chance de participer à des niveaux de conscience élevés.
On pourrait dire la même chose de n'importe quelle planète, remarqua Trévise. Chaque atome en moi a une longue histoire durant laquelle il peut avoir fait partie de quantités d'êtres vivants, y compris des humains, et durant laquelle il peut également avoir passé de longues périodes comme élément de l'océan ou dans un bloc de charbon ou dans un rocher, ou bien encore dans le vent qui nous souffle dessus.
Sur Gaïa, toutefois, observa Joie, tous les atomes font également en permanence partie intégrante d'un niveau de conscience planétaire plus élevé, dont vous ne pouvez rien savoir.
Eh bien, sans qui Trévise, qu'arrive-t-il dans ce cas à ces légumes de Seychelles que vous êtes en train de manger? Deviennent-ils partie intégrante de Gaïa?
Absolument. Mais de manière assez lente. Et les déchets que j'excrète cessent tout aussi lentement de faire partie de Gaïa. Après tout, les matières que j'élimine sont totalement privées de tout contact avec Gaïa. Leur manque même ce contact hyperspatial moins direct que je suis moi-même capable de maintenir grâce à mon niveau élevé d'intensité consciente. C'est ce contact hyperspatial qui permet à la nourriture non gaïenne de s'intégrer à Gaïa, lentement, lorsque je la mange.
Et la nourriture gaïenne de nos réserves va-t-elle lentement devenir non gaïenne? Si c'est le cas, vous auriez intérêt à la manger tant que vous pouvez.
Inutile de s'inquiéter à ce sujet, dit Joie.
Nos réserves de vivres gaïennes ont été traitées de façon à demeurer partie intégrante de Gaïa sur une longue période.
Pellerat intervint soudain.
Mais qu'arrivera-t-il si c'est nous qui mangeons la nourriture gaïenne? Et tant qu'on y est, que nous est-il arrivé lorsque nous avons mangé cette nourriture durant notre séjour sur Gaïa? Nous transformons-nous lentement en Gaïa, nous aussi?
Joie hocha la tête
et une expression étrangement troublée s'inscrivit sur ses traits.
« Non.
Ce que vous avez pu manger est perdu pour nous. Du moins, les portions qu'ont métabolisées vos tissus. Ce que vous avez excrété est demeuré Gaïa ou le deviendra très lentement, de sorte qu'en fin de compte, l'équilibre était maintenu. Mais de nombreux atomes de Gaïa sont devenus non-Gaïa par suite de votre visite chez nous.
Pourquoi cela ? Demanda Trévis curieux.
Parce que vous n'auriez pas été capable de supporter la conversion, eût-elle même été fort partielle. Vous étiez nos hôtes, pour ainsi dire, conduits à venir sur notre monde, et nous avions le devoir de vous protéger du danger, même au prix de la perte d'infimes fragments de Gaïa. C'est un prix que nous étions disposés à payer, mais ce fut sans joie.
« Nous le regrettons, » dit Trévis.
Mais êtes-vous sûr que, de la nourriture non gaïenne, sous certaines formes du moins, ne risque pas également de vous faire du mal ?»«
Non, »
répondit Joie.
« Ce qui est comestible pour vous devrait l'être pour moi. Je n'ai que le problème supplémentaire de la métabolisation de cette nourriture au sein de Gaïa en même temps que dans mes propres tissus. Cela représente une barrière psychologique qui gâche quelque peu mon plaisir et m'oblige à manger lentement.
Mais que je finirai bien par vaincre.
Et les risques d'infection ?
Piailla Pélorate non sans inquiétude.
Je n'arrive pas à comprendre comment on n'y a pas songé plus tôt, Joie. Toute planète sur laquelle vous vous posez est susceptible d'abriter des micro-organismes contre lesquels vous n'avez aucune défense, d'où le risque pour vous de mourir de quelque banale maladie infectieuse. Trévis, nous devons faire demi-tour.
Pas de panique, Pelle Chou,
rétorqua Joie tout sourire.
Les micro-organismes également sont assimilés en Gaïa lorsqu'ils font partie de ma nourriture ou lorsqu'ils pénètrent dans mon corps de quelque autre manière. Qu'ils semblent présenter une menace et ils seront assimilés d'autant plus rapidement. Et, une fois devenus Gaïa, ils ne seront plus du tout dangereux.
Le repas s'achevait et Pélorate sirotait son mélange chaud de jus de fruits épicés.
« Sapristi !» fit-il en se léchant les lèvres. « Je crois bien qu'il est encore temps de changer de sujet. Il semblerait que mon unique occupation à bord soit de sauter du coq à l'âne. Pourquoi donc ?»«
Parce que, » répondit Trévis, solennel, « Joie et moi, nous nous accrochons sur tous les sujets possibles, jusqu'au point de non-retour parfois. Nous comptons sur vous, Janoff, pour préserver notre santé mentale. Quel nouveau sujet voulez-vous donc aborder, mon ami ?»«
J'ai parcouru mes textes de référence sur Comporellon. Il se trouve que tout le secteur dont fait partie cette planète est riche en légendes antiques. Sa colonisation remonte à très loin, au premier millénaire du voyage hyperspatial. Les Comporelliens évoquent même un fondateur légendaire du nom de Ben Bali, disant qu'à l'origine leur planète s'appelait le monde de Ben Bali.
Et qu'y aurait-il de vrai dans tout cela, Janoff, selon vous ?
Un noyau de vérité, peut-être, mais qui peut savoir lequel ?
Je n'ai jamais entendu parler d'un nommé Ben Bali dans l'histoire réelle. Et vous ?
Moi non plus. Mais vous savez que vers la fin de l'ère impériale, on a assisté à un effacement délibéré de l'histoire pré-impériale. Dans l'agitation des derniers siècles de l'Empire, les empereurs étaient anxieux de réduire le patriotisme local, car ils considéraient, à juste titre, son influence comme désintégratrice. Dans presque tous les secteurs de la galaxie, par conséquent, l'histoire authentique, avec des archives complètes et une chronologie précise, ne commence qu'à l'époque où l'influence de Trantor s'est fait sentir et où le secteur en question s'est allié à l'Empire ou bien lui a été annexé.
« Je n'aurais pas cru que l'histoire fût si aisée à effacer, » remarqua Trévis.
« Par bien des côtés, ça n'a rien de facile, » reconnut Pélorate. « Mais un gouvernement puissant et décidé peut l'affaiblir dans de grandes proportions. Et, si elle l'est suffisamment, l'histoire antique finit par reposer sur des matériaux épars, étant à dégénérer en contes folkloriques. Invariablement, de tels récits folkloriques s'emplissent d'exagérations et finissent par présenter le secteur comme plus ancien et plus puissant qu'il ne l'a vraisemblablement été dans les faits. Et qu'importe alors la stupidité d'une légende en particulier, voire même son impossibilité, y croire devient pour les autochtones une affaire de patriotisme. Je puis vous montrer des contes de tous les coins de la galaxie d'après lesquels la colonisation originelle a eu lieu depuis la Terre elle-même, bien que ce nom soit rarement celui donné à la planète mère.
Comment l'appelle-t-il?
Par toutes sortes de noms. Il l'appelle parfois l'unique et parfois l'aîné. Ou bien il l'appelle le monde luné, ce qui, d'après certaines autorités, serait une référence à son satellite géant. D'autres prétendent que cela veut dire le monde perdu et que luné serait une déformation d'éloigné, au sens pré-galactique de perdu, d'abandonné.
Trévise intervint en douceur. Janoff. Stop. Vous ne vous arrêterez plus entre vos autorités et contre-autorités. Ces légendes sont répandues partout, dites-vous.
Oh oui, mon ami, absolument. Vous n'avez qu'à les parcourir pour entrevoir cette humaine habitude de broder sur une vague coquille de vérité en y rajoutant couche après couche de jolis mensonges, à la manière dont les huîtres de Rampora fabriquent des perles autour d'un grain de poussière. Je suis tombé précisément sur cette métaphore un jour que Janoff arrêtait encore une fois. Mais dites-moi, y a-t-il dans les légendes de Comporellon quelque chose de différent des autres?
Oh! Et Pellerat regarda Trévise quelques instants, bouche bée.
De différent? Eh bien, elles prétendent que la Terre est relativement proche. Et ceci est inhabituel. Sur la plupart des mondes qui parlent de la Terre, quel que soit le nom choisi pour la nommer, on note une tendance à rester vague quant à sa localisation. Soit elle est située indéfiniment loin, soit rejetée dans quelque contrée imaginaire.
Oui, dit Trévise, tout comme quelqu'un sur Seychelles nous avait dit que Gaïa était située dans l'hyperespace. Joie rit à cette remarque. Trévise lui jeta un bref regard. C'est vrai? C'est ce qu'on nous a dit.
Ce n'est pas que je ne vous crois pas. C'est amusant, c'est tout. Bien entendu, c'est ce que nous voulons leur laisser croire. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on nous laisse tranquilles pour l'instant. Et où serions-nous plus tranquilles et en sécurité que dans l'hyperespace? Si nous n'y sommes pas vraiment, c'est tout comme, pour peu que les gens le croient.
Oui, dit Trévise sèchement. Et de la même manière, quelque chose pousse les gens à croire que la Terre n'existe pas, ou qu'elle est très loin, ou pourvue d'une croûte radioactive.
À l'exception des Comporelliens, remarqua Pellerat, qui la croit située relativement près d'eux.
Mais néanmoins pourvue d'une croûte radioactive. D'une manière ou d'une autre, tous les peuples dotés d'une légende sur la Terre considèrent celle-ci comme inaccessible.
C'est plus ou moins exact, admit Pellerat.
Bien des gens sur Seychelles croyaient Gaïa proche. Certains avaient même identifié correctement son étoile. Et néanmoins, tous la considéraient comme inaccessible. Il se pourrait que certains Comporelliens soutiennent que la Terre est une planète radioactive et morte, mais soient capables d'identifier son étoile. Dans ce cas, nous l'approcherons, qu'ils la considèrent ou non comme inaccessible. C'est exactement ce que nous avons fait avec Gaïa.
Gaïa était disposé à vous recevoir, Trévise, remarqua Joie. Vous étiez impuissant entre nos mains, même si nous n'avons jamais songé à vous faire du mal. Imaginez en revanche que la Terre, elle aussi, ait ce pouvoir, mais ne soit pas bienveillante. Qu'arrivera-t-il?
Je dois de toute façon tenter de l'atteindre et en accepter les conséquences. Toutefois, ceci est ma mission. Une fois que j'aurai localisé la Terre et pris son cap, il sera toujours temps pour vous d'abandonner. Je vous déposerai sur le plus proche monde de la Fondation, ou vous ramènerai à Gaïa, si vous insistez, puis gagnerai la Terre seule.
Mon brave compagnon,
intervint Pellerate, manifestement en proie au désarroi. « Ne dites pas de telles choses. Loin de moi l'idée de vous abandonner. »
« Ou moi, d'abandonner Pelle ?»
dit Joie en tendant la main pour effleurer la joue de Pellerate.
Dans ce cas, fort bien.
Nous n'allons pas tarder à être prêts à effectuer le saut pour Comporellon.
Ensuite, espérons-le, ce sera cap sur la terre.